conscience. Les chambres fédérales débattent actuellement de la sortie du nucléaire, mais quelle que soit leur décision à ce sujet, les 5 centrales suisses devront être démantelées dans ces prochaines décennies, Silvio Dozzo.
Évidemment, une question d'âge, hein, de toute façon, comme d'ailleurs 200 autres centrales de par le monde. Mais le démantèlement d'une centrale, c'est pas du tout une mince affaire. C'est même une opération dont on ne domine pas entièrement le déroulement. Alors, le programme des Nations Unies pour l'environnement vient d'éditer un petit document, une douzaine de pages, en forme d'état des lieux technique sur le démantèlement. Un document qui est assez accablant et qui rappelle notamment qu'aujourd'hui, après l'arrêt d'une centrale, généralement avant le démantèlement, on attend plusieurs dizaines d'années que tout se refroidisse. Quant au démontage lui-même, il est très long. Écoutez, Pascal Peduzzi, le chef de l'unité Changement global et vulnérabilité au programme des Nations Unies pour l'environnement, et c'est le principal auteur du rapport.
Oui, c'est au moins aussi long que la construction d'une centrale. Mais avec la particularité que cette fois-ci, les matériaux qui étaient du béton et du métal inerte au moment de la construction contiennent de la radioactivité. Donc le démantèlement doit se faire avec beaucoup plus de précautions que la construction. Et surtout, principalement dans les endroits, et c'est la plupart du temps le cas, les centrales sont le long des cours d'eau ou au bord de lacs et de mer, question de refroidissement. Donc ça demande encore plus de dextérité pour éviter le relâchement de la radioactivité dans l'aquifère.
On l'a acquise, cette dextérité technique, maintenant, déjà, avec les exemples de démantèlement déjà connus.
Alors, l'expérience de démantèlement a surtout été gagnée sur les laboratoires de recherche, qui sont des beaucoup plus petits réacteurs, donc qui ont moins de radioactivité, sont plus faciles à démanteler. Ceci dit, dans le monde, il y a déjà 17 réacteurs qui ont été démantelés, donc il y a quand même une certaine expérience qui a été acquise à ce niveau-là. Maintenant, 17, c'est pas énorme compte tenu qu'on a 129 réacteurs qui ont été fermés, donc ça fait à peine 13% de ce démantèlement. Donc on a pris un certain retard sur ces mesures de démantèlement.
Autre élément important, c'est qu'on n'a pas pris en compte le démantèlement dans la construction, au moment de la construction de la plupart des centrales existantes, encore en activité ou déjà arrêtées.
Oui, effectivement, la plupart de ces infrastructures ont été planifiées dans leur construction, mais pas dans leur déconstruction. Donc ça engendre trois problèmes. D'abord, il n'y a pas eu de sélection des sites d'entreposage définitif de ces déchets qui sont générés par le démantèlement de ces infrastructures. Les coûts qui n'ont pas été prévus dès le départ, soit ils n'ont pas été prévus, soit ils ont été prévus, mais ils ne tiennent pas compte de l'inflation, les normes techniques de sécurité qui sont aussi plus élevées, qui engendrent des coûts supplémentaires. Et finalement, on ne peut pas tenir compte des surprises. Des surprises, il y en aura toujours. Ça peut être du terrain qui est plus contaminé que prévu, et il faut donc enlever une couche de terre supplémentaire, et c'est tout à coup des dizaines de milliers de mètres cubes de déchets radioactifs supplémentaires et donc des coûts qui s'additionnent. Mais ça peut être aussi des surprises encore plus inattendues. Dans le cas du bassin de refroidissement de Tchernobyl, on a actuellement entre 60 et 100 000 tonnes de matières vivantes qui sont des batraciens, des poissons et des algues qui se sont infiltrées et on n'avait pas du tout prévu. Et c'est donc du matériel supplémentaire radioactif, mais c'est aussi en encombrement dans ces bassins de refroidissement. Donc comment traiter ces surprises? C'est toute la question.
Mais ces animaux, c'est des animaux vivants?
La majorité de cette matière est d'origine organique, mais morte, donc qui s'accumule au fond des bassins. Mais oui, il y a 36 espèces de poissons qui naviguent dans ces bassins. Je ne connais pas leur durée de vie. Évidemment, personne n'a envie de faire des études très poussées sur la biologie de ce bassin de refroidissement. Mais des batraciens, etc., qui sont vivants et qui se baladent, oui, effectivement, et des algues. Bon, c'est pas les quelques grenouilles qui vont balader des becquerels supplémentaires qui me font le plus de soucis. Le principal problème, c'est plutôt l'accumulation au fond de ces bassins qui veut dire qu'il y a moins de liquide de refroidissement. Et nous avons déjà connu un réchauffement de bassins de refroidissement en 1957 en Russie qui a donné lieu à une explosion et qui a contaminé pas moins de 20 000 km², donc c'est la moitié de la surface de la Suisse, dont 1 000 km² qui ont dû être totalement évacués. Ce qui veut dire que tant que la centrale n'est pas totalement démantelée, c'est pas parce qu'elle est à l'arrêt qu'il n'y a plus de problème. Donc la première mesure, c'est la mise en arrêt définitive de la centrale, c'est-à-dire de retirer tout le combustible, c'est-à-dire de vidanger tous les circuits. Ça, c'est une première chose. Mais ensuite, on est à l'arrêt, mais il y a encore toute la radioactivité qui est contenue dans les différentes cuves, dans les matériaux qui ont été irradiés. Et cette période-là, elle est la plus vulnérable parce qu'on se retrouve avec une situation où on a une centrale quasiment à l'abandon, mais dont il faut encore avoir une sécurité accrue pour éviter que du matériel soit volé. Dans certaines régions, ça s'est déjà produit. Prenons la centrale nucléaire de Kinshasa, au Congo. Cette centrale a été fermée. Dans cette centrale-là, deux barres d'uranium ont été perdues. Une a été retrouvée en Sicile. Donc il y a un commerce qui pourrait se faire de matériaux radioactifs potentiellement pour faire des bombes sales. Il faut également éviter que certains feux ou des inondations puissent se produire à l'intérieur. Donc ce n'est pas qu'on a terminé parce que le matériel a été enlevé.
Actuellement, il y a 112 centrales déjà arrêtées en attente de démantèlement. Et puis, il y a toutes celles qui arrivent en fin de vie ou alors dont les États dans lesquels elles se trouvent ont décidé de la sortie du nucléaire. Et ça pose un problème supplémentaire.
Absolument. Donc, on a 140 réacteurs qui ont plus de 35 ans, dont 13 qui ont plus de 40 ans. Donc, c'est évident que les prochaines décennies vont voir en arrêt de centrales massifs. Il va falloir faire extrêmement rapidement des choix, notamment en ce qui concerne le site définitif de l'entreposage des déchets. Évidemment, dans un petit pays comme la Suisse, mais finalement dans tous les autres pays, c'est un peu le même problème. Personne ne veut ça à côté de chez soi. Et donc la décision politique va être très difficile à amener, d'autant plus que chaque pays est tenu de trouver une situation d'enfouissement final dans son propre pays.
Les technologies de démantèlement, on les connaît certes, mais il y a quand même des cas, et il y a un exemple en France par exemple, où on a commencé à démanteler une centrale, en l'occurrence celle des Monts d'Arrée à Brennilis en Bretagne, et où on s'est arrêté pour des questions de sécurité. Ça veut donc dire que finalement on ne sait pas tout faire, ou est-ce qu'on s'aperçoit maintenant que certains travaux sont trop dangereux ?
Oui, la centrale de Brennilis se voulait être en cas d'étude exemplaire et qui devait régler une fois pour toutes le problème du démantèlement nucléaire français. Or, évidemment, de surprise en surprise, infiltration d'eau, feu sur place, inondation, la stratégie a été changée pour une mise en attente pour probablement 40-50 ans avant de procéder à son démantèlement.
Votre document est très clair, très documenté, pose des vraies questions. Quel effet escomptez-vous ?
Ce que nous essayons de faire, c'est de vraiment changer la perception des gouvernements pour qu'ils ne reportent pas ça aux générations futures et qu'ils prennent les actions le plus rapidement possible. Ça ne sert à rien de laisser en attente un certain nombre de déchets. On a fait des déchets nucléaires, on a une loi qui nous interdit de les mettre dans la mer, et c'est pas plus mal comme ça. Maintenant, il faut des sites définitifs et il faut les enfouir.
Bon, le tableau est quand même vraiment sombre. Où se situe la Suisse là-dedans ? Bon élève, élève moyen, mauvais élève ?
La Suisse a la chance d'avoir que 5 réacteurs à démanteler, contre plus d'une cinquantaine en France ou 35 au Royaume-Uni. Donc la tâche, elle n'est pas si énorme que ça. Je pense qu'également la Suisse est un pays riche qui a les capacités de financer ce démantèlement. Maintenant, il ne faut pas faire croire aux gens que le nucléaire est aussi bon marché que ce qu'on a voulu faire croire. Quand on aura terminé le démantèlement, on s'apercevra certainement que le prix du kilowattheure était en dessus de ce qu'il a été facturé au moment de l'opérationnel. Donc, je crois qu'en Suisse, les décisions ont été relativement claires. On veut sortir du nucléaire. On se donne le temps pour le réaliser en plusieurs étapes. C'est une sage décision. Et puis, le démantèlement va pouvoir se faire. On espère bien avoir donc tous ces terrains remis en état initial. Je pense que techniquement, c'est tout à fait réalisable. Également, en Suisse, nous avons beaucoup de capacités d'innovation et de recherche qui nous permettront de faire des énergies alternatives et de vivre là-dessus. Simplement, c'est des décisions qu'il faut prendre rapidement. Le politique doit se positionner de manière très claire. Il faut également éviter la recrudescence aiguë. Et je pense que là, les groupements trop extrêmes, que ce soit pour la surélévation des barrages que ce soit pour la protection des toits du patrimoine où on se pose à la pose de panneaux photovoltaïques, je crois que ça, il faut absolument mettre en frein à ce genre de recrudescence. La Suisse a besoin d'énergie, elle doit aller de l'avant. On va y aller avec des énergies renouvelables. Je pense qu'il y a tout à y gagner là-dedans. L'énergie nucléaire est une énergie égoïste où on prend finalement les ressources des uraniums existantes et puis on laisse les déchets aux générations futures. Les énergies alternatives, c'est tout le contraire. Tous les développements qu'on va faire et les gains qu'on va faire aujourd'hui dans la compréhension et le développement de ces énergies alternatives sont tout bénéfice pour les générations futures.
Merci à Pascal Peduzzi du programme des Nations Unies pour l'environnement. Alors, Silvio Dolzan, quels sont les moyens dont dispose la Suisse ?
Alors, en Suisse, il y a des moyens financiers. Hein, donc, il y a 2 fonds qui ont été constitués pour payer en fait le démantèlement. Et j'ai des chiffres tout récents. Ils sont arrivés ce matin. Le Conseil fédéral a communiqué sur l'état de ces 2 comptes. Actuellement, il y a 4,15 milliards. Alors, ils augmentent chaque année. Hein, ça paraît beaucoup. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que cet argent devrait servir à démanteler les centrales, démanteler les dépôts intermédiaires et entreposer les déchets. À mon avis, ça va être juste.
Mmh. ça va être juste. Et puis, qu'est-ce qu'on fait de, des objets démantelés?
Tous les déchets. Alors, ça c'est les déchets, quoi. C'est un autre débat, c'est un autre pan du débat. On pourra y revenir, d'ailleurs, on va y revenir très certainement. Il faudra tout enterrer. Alors, pour la Suisse, ça va représenter, quand même quelques milliers de mètres cubes de déchets faiblement et moyennement radioactifs à vie courte. Là, il n'y a pas trop de problèmes. Il faut quand même pas peindre le diable sur la muraille. En revanche, il y aura quand même une certaine quantité, beaucoup plus petite évidemment, de déchets hautement radioactifs à vie longue. Et quand je dis vie longue, là, ça se compte en milliers d'années.
Et faire l'autruche, c'est impensable.